Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 376. Et on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, qui passionne tout le monde, où tout le monde a son avis et c'est légitime, l'intelligence artificielle. Et donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer dans la formation? Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que finalement ça va remplacer le formateur? Tout est possible. Et pour ça, il nous fallait un expert pour en parler. Et on va faire revenir quelqu'un que les anciens ont déjà entendu. En 2023, il était déjà venu, Gérald Thirault, qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui a une veille extraordinaire et que je vous invite tous à suivre parce que ça vous évite un gros travail. Et donc, ça vous permet justement de réfléchir. Et on s'est dit, au lieu de parler de la veille en général, comme on avait fait la dernière fois, là, on va parler sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui bouge, etc. Donc, bonjour, c'est Gérald.
Bonjour Stéphane, bonjour à tout le
Donc,
monde.
Gérald Thirault, qu'est-ce que l'IA va changer dans la formation? Est-ce que ça change quelque chose véritablement?
Ben, on peut déjà dire que c'est un peu. On le ressent depuis fin 2022, c'est quand même un. J'appellerais ça un raz-de-marée. On ne peut pas ignorer hein, quand même. Maintenant, tous les outils, tout le monde, c'est un peu la course à l'IA. Hein. Tout le monde intègre de l'IA un peu partout. C'est un peu la dernière tendance. C'est la tendance technologique. Il faut avoir de l'IA, sinon t'es has-been, quoi. Mais oui, pour revenir à ta question, c'est vrai que ça amène pas mal de modifications hein, au niveau de la formation. Moi, je le vois, j'ai passé un titre de formateur FPA, donc formateur professionnel pour adultes,
Très bien.
en 2019. J'avais pas d'IA, donc à l'époque, je vois un peu aussi la chose qui a évolué. Je vois pour tout ce qui est transformation dans les pratiques pédagogiques, quoi, l'IA, je parle de l'IA générative, hein, on va se concentrer
D'accord,
sur
très
celle-là
bien.
qui nous intéresse. On voit qu'elle permet quand même de créer rapidement des supports.
Ouais,
Alors, il y a des
exactement.
supports de formation, ça peut être du texte, des quiz, des cas pratiques. Il y a pas mal de choses, qu'il y a tellement d'outils, vraiment une grosse boîte à outils. Donc voilà, sur les pratiques, ça va amener toute cette tâche de, on va dire, comment dire, de conception. Voilà, donc ça va nous, entre guillemets, nous faire gagner du temps, parce qu'il y a quand même tout un temps après derrière, il faut quand même retravailler le contenu. Il est pas, enfin, il sera pas fini. Hein. L'IA, c'est pas non plus quelque chose de magique. Hein. Donc.
Et c'est là d'ailleurs où l'IA peut nous aider. Parce que si on dit l'IA, fais-moi un exercice, au bout d'un moment, je me dis anime-moi l'exercice, et puis après, moi, je vais l'animer, tu me notes. Ça, c'est des choses intéressantes sur l'IA. Finalement, est-ce qu'on aura besoin encore de pédagogues? C'est
Ah
tous les
oui.
animateurs. Ah,
Ah
très
oui,
bien.
forcément, parce que
Non,
oui,
c'est tous
pour
ceux qui sont
rassurer tout le monde.
pédagogues. Oui,
Oui,
exactement.
il y aura toujours besoin de relations, il y aura toujours besoin de la relation pédagogique, il y aura toujours besoin de relations humaines, hein, je veux dire. Enfin, moi, je le conçois comme ça, hein, peut-être que d'autres se disent non, il n'y a plus besoin. Mais moi, je pense qu'il y a toujours ce besoin de. Je vais prendre un exemple tout simple. Pendant la période Covid, on a été quand même à distance pendant de nombreux temps. On a fait des sessions Zoom. Ou des sessions Teams, moi je vois avec les étudiants et des choses, bah, tout le monde a apprécié le retour au présentiel, de retrouver physiquement des personnes, de parler physiquement avec des personnes. C'est quand même autre chose que passer tout son temps voilà, à distance, et peut-être même d'avoir un agent programmé qui va vous faire votre parcours de formation, qui travaille en silo.
Exactement. En fait, tu as raison parce que dessus, c'est ce qu'on appelle le besoin de proximité. C'est qu'à un
Ouais.
moment, j'apprends parce que je vois l'autre apprendre. Et finalement, par mimétisme, j'apprends. Et donc, il y a vraiment une synergie qui se fait. Alors que quand je suis avec mon LLM, dans ces cas-là, bah, je fais ce qu'il y a à faire. Il peut être sympa, il peut apprendre à être gentil, accueillant, etc. Donc ça, il peut le faire. Mais il manque cette dimension humaine qui, tu as raison. Sur le Covid, quand c'est arrivé, tout le monde a respiré quand on a pu revoir des êtres
Ouais.
humains, repartager ensemble, parce que ça ne fait pas tout l'IA.
Ouais. Et je tiens à préciser mon propos. Il y a l'apprentissage en ligne, ça existe, c'est aussi performant. Voilà, c'est juste, il faut trouver un juste équilibre entre présentiel et apprentissage en ligne, et en fonction aussi des besoins, des objectifs qu'on a, enfin les apprenants. Voilà, il n'y a pas que le présentiel dans la vie non plus, quoi.
Exactement. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent, finalement, avec l'IA, c'est tellement sympa que l'apprenant lui-même n'a plus besoin d'aller en formation. C'est-à-dire, s'il a un projet, bah, il demande à l'IA de sa pédagogie, il demande à l'IA de l'évaluer, Finalement, on n'a pas besoin de demander, ça coûte cher les formations, même s'il y a des modalités de financement. Est-ce que finalement, l'apprenant, avec l'IA ne devient pas, le binôme magique?
Oui, alors je n'ai pas de réponse toute faite sur cette question-là. Ça va dépendre en fait des objectifs de la personne derrière, en fait. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que c'est un gros parcours de formation? Enfin, ça va être quelle formation il cherche derrière? Parce que l'IA, il faut quand même faire attention. Hein. C'est pas, comme je l'ai dit au début, hein, c'est pas un produit magique. Hein. J'ai l'impression que tout de suite, il répond, c'est du tac au tac. Puis il fait tellement des belles phrases qui sont bien construites. Mais il peut largement se tromper dans les grandes largeurs. Hein. On parle souvent d'hallucination. Mais aussi, voilà, il peut nous donner l'impression de quelque chose enfin, de réel, de très construit, de très plausible, mais qui est très faux. Donc,
Oui,
ça
exactement.
remplacera jamais quand même l'expertise de départ de quelqu'un, d'une personne ou d'un groupe de personnes sur un sujet, sur des thématiques précises, des thématiques métiers ou des choses comme ça. Ça peut être peut-être une porte d'entrée sur quelque chose, mais ça ne peut pas en être la finalité.
Et ce que tu dis est très juste, mais simplement aujourd'hui, on est dans un monde où les cabinets de recrutement, les cabinets de transformation, que ce soit Deloitte, que ce soit McKinsey, etc., comme ils vendent de la transformation numérique avec de l'IA, ils disent ça va être terrible, tous les métiers vont changer, 30 à 50% des métiers vont disparaître. Donc ça veut dire qu'ils dramatisent en disant bah, ça tombe bien, j'ai une solution. Et comme ils publient des
Bah
contenus,
voilà,
bah,
je suis d'accord avec toi parce qu'on se retrouve justement comment dire, dans un flux de marketing. Voilà, faut pas se tromper. Toutes les boîtes qui viennent nous vendre de l'IA sous couvert de c'est la solution miracle, ça va vous faire gagner du temps. On a souvent entendu aussi vous allez être remplacé par celui qui sait se servir de l'IA si vous ne vous en servez pas ou des choses comme ça. On a l'impression que c'est une course contre la montre, en fait, qu'il faut absolument adopter l'IA partout, tout le temps, dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, comme si c'était quelque chose d'incontournable. Mais voilà, c'est que des bannières marketing. Finalement, l'IA aussi, c'est un produit. C'est un produit qu'il faut vendre. Donc, il faut trouver aussi des débouchés. Je prends par exemple. J'ai lu là récemment qu'il y avait des outils de détection pour IA comme
Ouais,
GPT
bien sûr.
0. J'ai lu là récemment maintenant qu'ils vendent maintenant des solutions alors que c'était pour détecter. Maintenant ils vendent des solutions pour les étudiants, les choses comme ça. Enfin, donc on est dans du, faut pas se leurrer, on est dans du marketing. Hein, on parle souvent que l'intelligence artificielle est une bulle financière. Hein. Donc voilà, faut savoir faire le tri, aux gens de mettre de côté un peu ce discours magique qu'on nous vend régulièrement, et en fait de se poser calmement et puis de peser un peu le pour et le contre de ce qu'il y a. Est-ce que vraiment j'ai besoin de l'IA partout, tout le temps? Moi, j'en suis pas sûr. Personnellement, moi, j'utilise l'IA, mais avec parcimonie. Il y a des fois, j'en ai pas besoin et ça me fait du bien.
Exactement. C'est ce que j'aime dans ce que tu fais, c'est que tu es pratico-pratique. Alors ça peut paraître un peu, on dit, on aime bien les gens qui intellectualisent l'intellect, mais en fait, à un moment, on se dit, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Concrètement, ça me sert à quoi? Et comment je le mets en œuvre step by step? Donc c'est
Ouais,
ça que j'aime bien voir.
exactement. Je suis d'accord avec toi, step by step, faut y aller. L'IA, en fait, c'est faut vraiment expérimenter, voire déjà définir est-ce que j'en ai besoin. À partir de là, les besoins, si j'en ai identifié, c'est de dire bah, étape par étape, il faut que j'expérimente. C'est un peu comme les outils numériques qu'on avait avant, hein. Et l'IA, faut expérimenter avec bah, différents outils. Et puis après, trouver avec des gens aussi, avec expérimenter, confronter un peu nos expérimentations, voir comment on a fait. Enfin, c'est toute cette intelligence collective qu'il y a aussi qui peut nous permettre de dire, bah voilà, ça peut être, c'est crédible pour mon activité, ça, j'y ai trouvé un gain de temps, une plus-value. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Je repense à ce que tu dis, on m'avait demandé une fois au niveau de la veille, si j'utilisais l'IA pour ma veille. Alors c'est vrai, j'utilise des agrégateurs qui le proposent si je paye. Voilà, Feedly ou InnoReader, voilà, je vais avoir un truc IA qui va tout me faire. Bah, bizarrement, déjà, j'en ai plus pas le besoin. Et bah, ma façon de faire me suffit déjà largement. Je n'ai pas besoin d'automatiser encore en plus. Je n'ai pas besoin de suivre plus de sites que je fais ou de cibler encore mieux. J'ai ma façon humaine de le faire, qui est ni bonne ni mauvaise. Voilà, il y a un juste équilibre. Puis moi, je me réajuste en fonction de ce que je fais. Moi, ça me convient Très bien, je n'ai pas besoin d'outils IA plus que ça pour faire ma veille, par exemple.
Merci. Moi, j'écris des articles, donc l'IA m'aide, je les écris plus vite pour, mais au final, je pourrais tout externaliser avec l'IA en mettant tous mes
Ouais.
articles, il écrirait. Mais ce que je fais, c'est que c'est pour m'aider à grandir dans ma tête, c'est à trouver des pistes, réfléchir. Donc, si c'est l'IA qui le fait, je ne réfléchis pas. Donc, je peux produire du contenu, mais ça n'est pas utile pour moi, puisque moi, je veux avancer. Donc, tu
C'est
as
une très bonne
complètement
chose
raison.
parce que j'aime bien en fait, moi ça m'aide aussi, hein. Je l'utilise par exemple l'IA quand je fais de la rédaction de mail, bah, quand j'ai fait déjà une ébauche ou quand je fais du contenu sur les réseaux sociaux pour mon institut où je travaille, eh ben, je fais déjà l'ébauche et après je soumets à l'IA en lui disant voilà, de vérifier un petit peu, me donner des axes d'amélioration. Et en fait, je vois pas entre ce qu'il me dit comme des réponses, ce que je vois, ce qu'il me donne, ce sont des propositions. In fine, après, c'est à moi de dire, sa proposition, elle est intéressante, celle-là, je ne vois pas l'intérêt. Et après, de dialoguer, de faire une itération avec lui pour approfondir certains points, justement, qu'il me propose. Et je te rejoins là-dessus, ça me permet d'approfondir peut-être un angle que je n'aurais pas vu sur ce que je voulais dire, et peut-être aussi une autre formulation. Moi, ça me permet. Alors, voilà, hein, c'est. J'ai l'habitude de lire des articles en ligne ou des choses comme ça, donc ça me permet un peu aussi de varier le vocabulaire. Et puis bon, j'essaye de quand même de faire très attention que ma voix, quand j'écris, quand je fais quelque chose, que le message que je veux faire passer n'est pas travesti par l'IA. Voilà.
Oui, c'est important ça.
Voilà.
Parce que chaque IA a aussi ses biais. Et donc, cette
Ouais.
façon de voir, et donc après, soit on est d'accord, c'est très bien, soit on ne l'est pas, et dans ces cas-là, il faut faire attention de que l'IA ne nous remplace pas dans ce qu'on dit.
Ouais. Alors c'est bien, puisque tu parles des biais, alors parce qu'on entend souvent parler, l'IA a des biais, effectivement, c'est vrai, mais parce qu'elle est entraînée sur des données humaines. Et en fait, alors, à proportion gardée, c'est comme si on discutait avec un groupe d'amis, on a tous des biais,
Bien
on
sûr.
a tous des choses qu'on va dire. Donc, c'est pas nouveau, les biais, les fausses informations, c'est pas nouveau avec l'IA, c'est juste ça a amplifié, parce que bon, il y a un gros volume de données, voilà, mais. On le savait déjà avant, donc on va dire que là, maintenant, on s'y prépare un peu plus, quoi.
Exactement. Et de toute façon, quelqu'un qui n'a pas de biais, c'est quelqu'un qui ne peut pas penser. Le biais, ça sert à penser. Voilà. Après, peut-être que les biais ne me plaisent pas. Ça veut dire que politiquement, ce n'est pas mon histoire. Bah, ça veut dire que je vais prendre d'autres biais. Mais pour penser, par définition, il faut agréger, donc il faut avoir des biais. Voilà. Donc la vraie question, et donc on dit souvent, ChatGPT, il est plutôt woke. Et puis Grok, il est plutôt libertarien. Donc, suivant si on prend les deux extrêmes ou votre cœur balance, tout est bon. Hein. Et toi, tu conseillerais quoi comme LLM?
Bah moi, alors, je ne vais pas être très innovateur, mais j'utilise beaucoup de ChatGPT. Voilà, c'est celui que j'ai découvert au tout départ. J'ai travaillé avec
Tu
lui.
prends
Enfin,
la
c'est lui
version
où je le
paye...
trouve.
tu prends la version payante?
Alors, non, moi, j'ai la version gratuite.
Très bien.
Alors, à titre perso, j'ai la version gratuite. Puis au niveau institution, je ne me sers que de la version gratuite.
D'accord, très bien.
Bien que, parce qu'on est rattaché à une université, l'université de Bourgogne, à Dijon. Et en fait, on a accès, comme on a un compte, enfin, des comptes Microsoft, on a accès du coup à Copilot. Mais
D'accord.
ce n'est pas parce que j'ai accès à Copilot que je m'en sers.
Oui.
En fait, c'est en fonction de l'outil, c'est voilà comment. Enfin, moi, j'ai appris à apprécier travailler avec ChatGPT. Il m'arrive de faire des infidélités. Hein. Des fois, j'ai Gemini aussi. Je
Oui,
travaille
très
un
bien.
peu. Je regarde, j'ai testé un petit peu, regarde un petit peu tous comment ça se faisait. J'ai testé aussi Claude d'Anthropique sur certaines choses. Voilà, mais je reviens toujours un peu à ChatGPT.
Alors, il y a
Même
un
si
truc qui est
après.
aussi
Voilà.
intéressant, c'est de voir ce qu'on appelle les LLM as a judge. C'est-à-dire quand on prend un LLM et on demande à un autre de corriger ce que le premier a donné. Et comme ils ne sont pas entraînés
Oui.
du tout de la même façon, c'est hyper intéressant parce que quand il y a une hallucination, bah, l'autre ne voyant pas du tout les mêmes hallucinations, ayant les siennes aussi, hein, mais ça nous permet, nous, d'avoir un esprit critique.
Ouais, mais c'est très juste que j'avais fait un peu, expérimenté un peu ça, j'avais pris Anthropique et puis ChatGPT, puis j'avais fait genre pour une séance que je devais monter. Donc j'avais créé sur ChatGPT, j'avais demandé la même chose sur Anthropic, puis j'avais regardé un petit peu pour voir les différences. Puis autre chose que j'aime bien faire, c'est quand je travaille avec un, puis qu'il me donne des éléments, puis que je remodifie, je remets dans un autre pour voir qu'est-ce que tu en penses et tout. Voilà. Alors c'est vrai que c'est bon, c'est des petites expérimentations comme ça. Puis comme ça, on peut voir un petit peu. Tiens, il me dit à peu près les mêmes structures, il me dit les mêmes choses. Ah bah tiens, lui, il a repéré ça, il a pu insister là-dessus, que par rapport à l'autre, il n'avait pas insisté là-dessus. Voilà, il y a. Voilà, avec les IA génératives, voilà, on a vraiment un gros domaine d'expérimentation, de choses à faire.
Alors, si ChatGPT, tu voulais en parler un peu plus précisément en disant dans la formation, comment tu peux l'utiliser?
Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je l'utilise alors au niveau pro, vraiment dans la rédaction des mails, voilà, pour remettre un petit peu à l'endroit, parce que des fois je fais des phrases un peu trop lourdes, un peu trop verbieuses, donc des fois ça permet de remettre. Ce que j'aime bien en plus, c'est dans le prompt que je lui mets, c'est que je lui demande, je lui donne pas de rôle, hein, parce que bon, c'est des vérifications d'orthographe, de grammaire,
D'accord.
je lui demande quels axes d'amélioration il peut me proposer, je lui demande de justifier ses réponses.
Oui,
Et
très bien.
avant de commencer, je lui demande de me dire qu'est-ce qu'il comprend du contexte de mon ébauche par
Oui,
rapport à.
impeccable.
Et je trouve ça intéressant parce que je vois un
Oui.
petit peu s'il arrive à cerner. Donc je me dis, bon, c'est que je ne dois pas être trop mal dans la façon dont j'ai mis en place mes idées. Puis alors voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a des idées que je prends, que je garde, il y en a d'autres que je jette. Voilà. Hein. C'est vraiment, on a. C'est
Mais
lui
c'est passionnant
derrière
parce
qui.
que j'utilise pas comme
Ouais.
ça. Et donc c'est passionnant parce que finalement, je l'écris, je trouve que c'est cohérent parce que c'est moi qui l'écris. Donc, et finalement, mais est-ce que l'autre le lit comme ça? Et donc,
Ouais.
ChatGPT permet justement de se dire quel est le contexte, qu'est-ce que tu comprends avec ce que je
Ouais,
donne?
puis.
Hein?
Ouais,
Pardon?
puis exactement. Puis lui, en fait, il me redonne. Moi, j'aime bien regarder au départ, voir comment il comprend le contexte de ma tournure de courriel. Et je me dis, ouais, ok, donc ça me permet de checker déjà si je suis bien moi, puis si lui comprend bien. Enfin, voilà, voilà pour les courriers. J'utilise ça un peu régulièrement. Il y a aussi, bah, je disais aussi sur les contenus pour les réseaux sociaux. Donc voilà, parce que bon, c'est pas quand je fais pour mon institut, voilà, quand c'est pour sur d'une manifestation, des choses comme ça, voilà, je fais une ébauche, je remets un petit peu, je lui demande, voilà, le rédacteur de contenu sur les réseaux sociaux, spécialisé LinkedIn ou Instagram, parce que c'est les deux réseaux qu'on utilise au niveau de mon institut. Voilà, moi, ça me fait vraiment gagner du temps sur la mise en forme. Et moi, je remodifie aussi parce que je ne prends pas sa mise en forme. Final, je rebalance par rapport à moi ce que j'avais mis, je redemande, je retravaille un petit peu, voilà, c'est.
Et alors,
Après,
y
c'est
compris
vraiment pour.
sur l'image,
Ah,
tu
alors
dis.
par contre, j'utilise. Alors, c'est peut-être un truc particulier, c'est que je trouve que sur les réseaux, alors on pourrait hein, faire avec des images, mais je trouve que, par exemple, je vois sur LinkedIn, je vois, en fait, j'ai l'impression de voir tout le temps les mêmes types d'images. Et en fait, ça me fait rire, et en même temps, ça m'attriste parce que je trouve que. On a des comme Pixabay, je veux dire, Pixabay ou Unsplash, on a des banques d'images libres, gratuites, de droit, et on peut aller piocher, voilà, trouver des images qui sont en rapport quand même avec ce qu'on veut, ou même créer son image elle-même sans passer par l'IA, hein, je pense à faire un montage avec des éléments, voilà. Mais je trouve qu'on a l'impression, une forme d'uniformisation qui m'attriste, puis que je trouve assez récurrente sur les réseaux. En plus, je parlais que j'utilise. Pour faire les textes pour les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'on voit aussi une uniformisation des textes. Tu vois, si toi, tu as déjà vu, tu sais, tu revois, alors, il y a une explosion des émoticônes un peu partout. voilà, tu retrouves des structures assez récurrentes, en fait. Et ouais, alors, je ne vais pas dire qu'il y a une forme d'uniformisation de la pensée, mais il y a une forme d'uniformisation de la conception des posts sur les réseaux. Heureusement, il y a encore des archipels de créativité humaine, on va dire, mais ça tend à s'uniformiser, ouais. Alors
Et
après,
c'est vrai.
tu.
Ouais,
Ouais,
pardon.
vas-y.
Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, parce que quand j'écris des articles, parfois, donc moi, ils sont très techniques, je ne prends pas de position politique, ce n'est pas du tout mon univers. Et chaque fois, ChatGPT me ramène à des choses qui ne sont pas ce que je veux dire. Et quand je lui dis non, ce n'est pas ce qui m'intéresse, et je demande de retravailler, finalement, si je le pousse pas dans ses retranchements, bah, il me resserre la même soupe en reprenant à peu près la même chose. Autrement dit, il y a vraiment des angles. Et moi, comme je sais ce que je veux, ça va. Mais si je me laissais porter par ChatGPT qui produit quelque chose de propre, hein, donc dans ces cas-là, finalement, c'est lui qui fait la pensée, plus moi.
Ben oui, parce que ChatGPT, voilà, comme je disais tout à l'heure, il va vous parler avec un C'est tellement plausible ce qu'il va vous dire, mais
Ouais,
c'est
exactement.
typiquement un vendeur de voiture. Hein. Voilà, hein. Il a un beau discours, tout est bien enrubanné, c'est un joli paquet, mais en fait, quand tout, ben, en fait, c'est pas du tout. Tu vois plein d'un. Alors, ce qui est très juste dans ce que tu dis, c'est que toi, tu sais au départ ce que
Oui,
tu veux.
absolument, c'est
Donc,
ça.
c'est déjà plus facile pour repérer ce qui ne va pas. Et je mets ça en parallèle avec moi, avec les étudiants que j'ai à l'IFSI où je travaille, et puis les élèves aides-soignants que j'ai. S'il fasse où je travaille, c'est vrai qu'il y a aussi une acculturation en fait à les amener à voir. Parce que eux, pour certains, je vois un peu les habitudes qu'ils ont. Je mets de côté qu'ils l'utilisent comme un ami pour déverser un peu. C'est un peu le livre où je mets mes secrets. C'est ce qui est très problématique. Mais ils s'en servent. Voilà, c'est comme un moteur de, on va dire, comme si c'était Google. Je tape la question,
Ouais,
hop, j'ai
absolument.
la réponse, je copie-colle. Il n'y a pas de critique de cette réponse. Parce qu'il y a aussi un déficit aussi sur des fois les connaissances de base, sur quel est l'objectif, pourquoi ils l'utilisent. Et moi, je viens aussi en tant que documentaliste revenir un petit peu avec eux, travailler là-dessus, leur faire prendre conscience que l'outil n'est pas une fin en soi, que c'est quand même eux qui sont derrière, qui ont la responsabilité de ce qu'ils mettent après dans leurs travaux.
Et alors
Et ça, c'est
comment
très
tu
important.
fais? Parce qu'à la limite, il y a beaucoup d'étudiants qui se disent, on leur pose une question, un petit rapport, une petite synthèse, donc ils demandent. Même quand ils doivent faire des présentations, ils lisent l'ordinateur. Donc comment tu fais toi pour leur dire, ben, ayez un esprit critique, si je comprends bien?
Eh ben on travaille, on fait des ateliers en petits groupes et en fait, on va un petit peu sur des travaux, on va faire des recherches à côté, par exemple. Je vais
D'accord.
te dire, par exemple, je ne sais pas, alors, ça tend, comme ça évolue beaucoup aussi, ça se perfectionne aussi les IA, ça tend à faire moins d'erreurs, mais on essaye de voir un petit peu tout ce qui peut être. Bon, avant, on regardait, par exemple, je prends Virginia Anderson, ses 14 besoins, ils faisaient une recherche de leur côté, et on allait demander la même chose au niveau de l'IA pour voir, raconte-moi un peu le parcours historique, ses parcours de vie, et essayer de confronter après. Quels sont les éléments qu'on trouve qui convergent et où y a-t-il des éléments di divergents? Voilà.
D'accord.
Après, voilà, c'est des petits exercices pratiques pour les amener à ça. On sait aussi que sur les mathématiques, comme c'est un modèle probabiliste, c'est pas quelque chose qui est entraîné pour faire des maths. Donc, on peut mettre, comme je vois par exemple des calculs de doses au niveau IFSI ou IFAS, on va s'entraîner à voir, bah, vous faites un calcul de dose, voilà, qu'est-ce que vous avez à trouver. On va refaire pareil dans ChatGPT. Est-ce qu'on arrive au même résultat? Quel est le processus? Comment il a fait? On essaie de décrypter un petit peu ça pour voir est-ce que bah, en fait, il s'est planté dans les grandes largeurs, mais pourtant, quand il vous le présente, ça a l'air d'être plausible.
Ben oui, c'est
Mais
ça.
quand on va dans le détail, c'est pas bon. Voilà,
Et
c'est par
c'est.
plein de petites touches comme ça où on amène à réfléchir. Et puis, bien sûr, les questions aussi écologiques, hein, derrière aussi, les sensibiliser. Parce que, comme tout outil numérique, les IA, ce n'est pas neutre hein, quand on les utilise. Comme tu
Bien
parlais
sûr.
tout à l'heure de générer des images, comme toute autre chose. Maintenant, même les vidéos. Hein, donc, et
Ouais.
puis, ça, voilà, on amène sur différentes choses. Puis, on les sensibilise. Moi, je sais qu'il y a. J'aime bien parce que, alors, on parle des deepfakes, mais il y a aussi, si on entend dire, les. On va dire les bons deepfakes, hein, je mets des grandes guillemets, parce que c'est un groupe de jeunes médecins qui utilisent en fait sur les réseaux sociaux, par exemple, ça véhicule beaucoup de choses
Bien sûr.
fausses au niveau santé. Est-ce que alors eux, ce qu'ils font, alors ça interroge après sur les droits de reprendre. En fait, ils reprennent les vidéos avec les gens dessus et ils font un deepfake où ils leur font dire justement, en fait, voilà ce que je vous ai présenté l'autre fois dans la vidéo, ben, c'est très nuisible pour la santé. En fait, voilà, c'est une espèce d'arroseur arrosé. Voilà. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Voilà.
Ouais. Donc ça veut dire que les médecins apprennent à parler le langage des réseaux.
Ouais, bah, ici, parce qu'il y a tellement de désinformations sur les réseaux sociaux, il faut quand même se mettre à la place des jeunes générations actuelles et qui vont venir. Je voyais que la plupart se renseignent quand même sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux. Alors voilà, comme TikTok ou des choses comme ça, bon, on voit bien aussi ce que c'est comme type de réseaux sociaux. D'ailleurs, il y avait, je crois, il y avait le mot à la mode, je ne sais pas si c'était cette année, au début d'année, c'était brainrot. C'est-à-dire, c'est de la pourriture pour le cerveau, en fait.
Ah,
Tellement
d'accord.
l'information. Voilà, c'est qu'en fait, on est là à scroller sur des contenus, des informations qui sont plus ou moins bonnes, surtout des fois qui sont pas. Voilà, qui sont fausses. Et puis, bah, on se retrouve dans ce flux-là. Voilà, c'est. Faut aller chercher les. Ouais, dis-moi.
Est-ce que tu penses que les spécialistes pourraient apprendre la grammaire des réseaux sociaux en faisant des petites vidéos, des trucs, des shots, ce qui fait que finalement eux-mêmes deviendraient des marques en disant moi je suis un institut, etc. Ce que je dis, c'est plutôt la vérité, mais au lieu d'être pénible, canal historique, finalement, je parle avec des choses qui sont entendables par par tout le monde.
J'ai un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit quand tu parles à ça, là, c'est j'aime beaucoup Julien Bobrov. Donc, prof de physique, il a à
D'accord.
Paris-Saclay. Et lui, alors, il fait des vidéos. Vraiment, il a pris les codes sur de la vidéo dynamique où il explique des choses sur de la physique quantique, des choses, voilà, que tu. Des choses qui pourraient paraître nébuleuses pour la plupart des gens, mais il arrive à rendre ça super attractif. Un petit peu comme, si tu veux, à l'époque, quand il y avait C'est pas sorcier ou des choses comme ça, où tu vois, il parlait de choses et ça te rendait, c'était captivant. Bah, lui, il a réussi à remettre ça un peu dans ses petites vidéos qu'il fait. Là, je pense, en plus, je crois qu'il a
D'accord.
fêté sa 500e. Et il fait
D'accord.
ça, il est sur TikTok, voilà. Alors, il occupe
Il a des
les autres.
followers?
Ah ouais, il a beaucoup de
Ah
followers. Ouais.
ouais, donc ça marche, ouais.
Ouais, bah,
D'accord, ouais.
le format est captivant. Moi, j'aime bien en plus. Bon, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas...
Ouais, bien
Au
sûr.
premier abord, je me dis, c'est pas le truc qui m'intéresse. Mais en fin de compte, je me retrouve à regarder les vidéos. Elles sont vraiment intéressantes. Et ça nourrit ma curiosité et ma culture G. Puis même, voilà, sur la physique, des choses comme ça. C'est extrêmement, extrêmement. Je vous invite à aller regarder Julien Bobrov. Franchement, c'est. Moi,
Très bien.
j'adore.
Exactement. Et ça peut donner à tous les experts qui nous écoutent bah, la possibilité de dire bah, vous faites à votre façon, mais finalement, il y a un credo. Et quand on veut parler aux jeunes, bah, TikTok, c'est le meilleur support. Hein, je veux dire, c'est pas
Bah
LinkedIn.
oui, il y a TikTok. Après, bon, faut... c'est voilà, c'est chinois. Hein. On sait aussi que derrière, au niveau des données, c'est pas non plus. Après, ça peut être sur aussi Instagram ou des choses comme ça.
Snap.
Hein. Mais
Bien
ouais, il y a
sûr.
beaucoup de choses hein, qui se font. Hein. C'est vrai qu'il faut aller chercher maintenant. On a posé le constat que s'il y a les réseaux, il y a de la, on va dire, il y a du contenu qui est alarmiste, hein, qui est, enfin, je veux dire alarmiste, qui est alarmant surtout. Vous voulez dire il faut aller aussi. Chercher dessus, amener sur ces plateformes-là, prendre le. J'allais dire, faut y aller aussi dessus, et puis amener aussi du contenu qualitatif pour un peu faire la contrebalance. Alors, bien sûr, hein, c'est un peu le, on va dire, Don Quichotte et le moulin à vent, hein, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de contenu inutile
Donc
que voilà.
autrement dit, ça s'apprend.
Mais oui, ça s'apprend.
C'est comme lire.
Ça s'apprend. Ouais. Moi, je n'étais pas spécialement, quand je commençais à communiquer sur les réseaux de l'Institut, Instagram, c'est pas quelque chose qui me parlait plus que ça. Bah, je m'y suis mis. Pourquoi? C'est là où je capte plus que sur LinkedIn, mais les étudiants de
Oui,
mon
bien sûr.
institut et mes élèves aides-soignants. C'est là où je les retrouve là, où on peut communiquer. C'est là où je leur partage aussi. Parce que je fais du coup de la veille sur Instagram en repartageant des stories, en faisant aussi voilà, du contenu que je leur repartage dessus. Donc c'est là aussi que j'arrive à le plus les toucher, que je ne pourrais pas faire sur LinkedIn, où j'ai très peu d'étudiants qui sont sur LinkedIn.
Ouais, exactement, ouais. Complètement. Alors, tu disais qu'avec tout ce qu'il y a, il y a une nouvelle grammaire qui se fait, une nouvelle façon de faire. On a parlé un peu de ChatGPT.
Ouais.
Tu voulais parler aussi de Notebook LM.
Oui, bah parce que c'est l'outil vraiment, moi j'adore, c'est vraiment celui qui... Je trouve qu'il s'améliore assez rapidement en plus, hein, ces nouvelles fonctionnalités.
Alors, Notebook LM, c'est Google, ça rassure tout
C'est
le monde.
Google. Voilà, c'est Google. Alors, il est en accès, pardon, gratuit. Vous pouvez directement y aller. Il vous suffit d'avoir une adresse Gmail. Et en fait, vous avez accès quand vous allez dans la petite gaufre. Moi, j'appelle ça la petite gaufre où il y a toutes les applications. Il est tout en bas, vous allez le retrouver. Et en fait, Notebook, ça va vous faire des carnets de notes. Voilà comment ils appellent ça. Et en
D'accord.
fait, dedans, on va pouvoir mettre, dans la version gratuite, jusqu'à 50 sources. Donc, 50 sources, c'est 50 sources qui viennent, voilà, que nous, on a choisi. Et en fait, après, on va pouvoir, l'outil se divise en trois parties. D'un côté, vous avez les sources que vous rentrez. Alors, ça peut être du texte, ça peut être des liens de pages web, ça peut être des vidéos YouTube. En fait, il y a plein d'autres choses qu'on peut rajouter, des PDF, des choses comme ça. Et vous avez le panneau central qui va être le chat. Et en fait, il va vous faire une synthèse au milieu. Il va vous dire, voilà, les documents qu'il y a là parlent de ça, nanani, nanana. Comme avec ChatGPT, en fait, vous allez pouvoir dialoguer avec lui. Et lui va vous sourcer après où il établit ses réponses, avec quels éléments de vos documents il établit les réponses. Et donc, on peut aller retracer les réponses à partir des éléments des sources. Et de l'autre côté, on a la partie studio, où là, on va pouvoir créer différents supports, contenus. Donc, moi, celui que j'aime le plus, c'est la partie podcast. Mais c'est plutôt la
Oui,
partie
bien sûr.
synthèse audio, parce que je sais que Nicolas Lozancy qui n'aimerait pas qu'on appelle ça un podcast. Mais voilà, on va dire une synthèse audio.
Très
Une
bien.
synthèse audio et qui s'est bien développée, parce qu'avant, c'était qu'en anglais, maintenant c'est devenu en français. Et maintenant, on a la possibilité différents types de synthèses. On va avoir une lecture approfondie. Vous allez avoir deux voix de synthèse, mais quand même très assez bien faites, qui vont parler sur vos documents. Après, il y a le brief qui doit durer 2 à 3 minutes, je crois. Il y a la lecture, l'analyse critique, où là, il y a quelqu'un qui critique vos documents, les choses comme ça. Et il y a un quatrième, je ne me rappelle plus ce que c'est. Enfin voilà, c'est vraiment à voir, j'aime bien ça. Après, il y a la vidéo. Il vous fait une
Alors,
présentation
ce qui est très bien sur le podcast, c'est le fait qu'on peut personnaliser. Donc, il y a deux petits, trois
Exactement.
petits points. Et donc, on
Ouais.
peut. Alors, justement, ça sert à quoi personnaliser?
Et ben, juste, je l'ai fait pas si longtemps que ça. J'ai fait des séances avec les premières années en IFSI que j'ai sur des ateliers sur les méthodes de travail efficaces. Donc, ça fait partie dans leur référentiel. C'est méthodes de travail efficaces et bureautiques. Donc, je les ai amenés un petit peu là-dessus sur tout ce qui était pratique de récupération en mémoire. Pratique d'espacement, la courbe de l'oubli, des choses comme ça, et plus la méthode DJ pour justement les révisions, les espacer dans le temps. Et ben, moi j'ai travaillé ma séance sans support, et du coup, je voulais réactiver un peu ces éléments, ces informations que je leur avais données une semaine ou 2 semaines après. Et en fait, bah, j'ai été tué au lieu de dire, tiens, je vais leur renvoyer un document à relire ou des choses comme ça. J'ai dit, tiens, je vais leur mettre un petit peu avant les vacances, là. J'ai dit, tiens, je vais aller sur Notebook LM. J'ai fait une petite présentation PowerPoint où j'ai remis les éléments, j'ai remis les choses comme ça, vraiment basiques, hein. J'ai mis le texte, des espèces de schémas, des trucs comme ça. Je l'ai mis en PDF et je l'ai mis dans Notebook. Et puis, je lui ai dit, bah voilà, comme tu dis, là, ce qui est important, c'est la petite fonction personnalisée. Et j'étais dans le petit crayon et je lui ai demandé d'expliquer les notions qu'il y a dans le document, comme c'était un public novice sur ces notions, de l'expliquer, voilà, comme si c'était des personnes qui ne connaissaient pas ces notions. Donc voilà. Et ce qui m'a permis d'avoir un épisode d'une quinzaine de minutes que j'ai réécouté derrière pour checker quand même si c'était bien. Et j'ai trouvé ça assez dingue parce qu'il a bien repris les notions dans l'ordre en plus que je les amenais. Enfin, il a réussi en plus à remoduler les choses. Et j'ai trouvé fantastique. Moi, après, j'ai repartagé aux étudiants. Et c'est vrai que bah, j'ai bien retrouvé les éléments que je donnais. Et on parle d'hallucination des fois. Bah, je ne sais pas si c'était une hallucination positive de sa part, un notebook. Mais je n'avais pas parlé de la méthode Feynman d'enseigner à quelqu'un d'autre. Et bah, bizarrement, il me l'a collé dedans. Et ça s'y est très bien en fait à ce moment-là avec les éléments qu'il donnait. Et j'ai trouvé ça très bien parce que c'était dans le faire d'apprendre en collectif. Et j'ai trouvé ça très bien. Donc je me suis dit, tiens, moi je n'avais pas parlé dedans. Bizarre. Mais je dis oui, en plus c'est tangible. Donc voilà. Et bon, après, il y a des fois, il y a des petites imperfections au niveau de la diction ou des choses comme ça. Voilà. Mais je veux dire, c'est vraiment très marginal. C'est très à la marche. Ça n'empiète pas sur le message. Voilà, qui a à faire passer quoi. C'est vraiment un outil génial.
Et ton exemple est extraordinaire parce que tous ceux qui, on parle beaucoup de créer des écosystèmes apprenants, là, dans ces cas-là, tu fais ta formation, derrière, ça te fait un support avec des gens qui parlent de ce que tu proposes. C'est un complément parce que les auditeurs sont plutôt en posture agentique. Et quand on découvre des concepts, c'est la meilleure façon de faire. J'entends des gens parler de quelque chose, je ne suis pas partie prenante. Donc voilà. Et donc c'est extraordinaire. Et ça veut dire qu'en fait, tu as juste appuyé sur un bouton. Tu as mis quelques paramètres de ce que tu voulais rajouter de plus. Et
Voilà.
finalement, tu as un support. Tu peux avoir une vidéo, tu peux avoir tellement de choses. Et derrière, tu l'envoies au rythme où tu le désires. Et ça permet, ce que disait Ponsoulière, il disait que finalement, plus on apprend sur des supports différents, plus on mémorise. C'est la courbe de l'oubli. Ça permet de répéter plusieurs fois. Mais avec des supports différents, on mémorise beaucoup mieux la
Ouais.
connaissance. Donc, c'est extraordinaire.
Ça en plus, j'avais fait ça pour les deuxièmes années l'année dernière. J'avais amené sur les méthodes de travail efficaces. Et j'avais parlé de cet outil-là à la fin aux étudiants, et j'ai un étudiant qui m'avait fait un retour qui m'avait dit c'est génial parce qu'en fait, c'était avant les partiels. Il m'a dit ben, j'ai mis toutes mes notes de cours, j'avais mis le cours plus mes notes, et en fait, il m'a généré des épisodes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce qu'on met les documents, j'ai mis 50 documents, je fais un épisode sur les 50 documents, parce que j'ai déjà entendu, il a dit ah oh, ben, la synthèse, elle est pas belle, là, il loupe des éléments. Comme c'est une synthèse, 50 documents, il va au plus vite. Ce qui est intéressant justement avec ces outils-là, c'est de cibler une thématique à l'intérieur de tout cet amas de documents. Moi, c'est ce que je fais. Comme on peut générer plusieurs épisodes, enfin, moi, je les télécharge, voilà, machin. C'est voilà, je ne prends pas la globalité. Je prends un élément dans la globalité et je fais un épisode dessus, je me focalise là-dessus. Et pour revenir à cet étudiant-là, il dit, voilà, j'ai tout mis ça, j'ai mis sur les différentes thématiques qui m'intéressaient dessus. Il m'a fait différents épisodes. Il m'a dit, bah, c'était génial parce que j'ai pu réviser, en plus de ces révisions traditionnelles, j'ai pu réviser en faisant la cuisine, en faisant mon sport, et il me dit, et même en venant sur le trajet pour venir à l'institut pour venir faire l'examen. Donc, j'ai
C'est
trouvé
chouette.
ça génial. Donc, voilà, c'était. Voilà, c'est. Et ça revient aussi pour dire que l'outil ne remplace pas quand même les méthodes traditionnelles. Ce que j'ai toujours aussi à leur dire,
Exactement.
ça ne remplace pas, l'outil ne remplace pas l'effort d'apprendre. Faut toujours passer. C'est un élément plus.
Et avec Notebook LM, on peut, sur la partie agent conversationnel, lui demander de
Ouais.
poser des questions, donc de me challenger. Donc ça, c'est top. Tu avais
Et
parlé
puis,
justement, oui,
oui,
pardon.
et je rebondis là-dessus, parce que dans la partie chat, tu as dans les petits trucs personnalisés au-dessus du chat.
Attends.
Tu as guide, t'as le guide d'apprentissage, en fait, ils font un peu tous maintenant ça. C'est qu'en
Ouais.
fait, tu vas lui dire à Notebook LM, ben écoute, il va te dire en mode apprendre. Et au lieu de donner les réponses, il va te challenger avec des questions pour approfondir. Et après, tu peux revenir, tu peux basculer des autres modes. ChatGPT aussi le permet, en fait, maintenant tous, même Gemini le permet, ils ont des guides d'apprentissage. Voilà.
Exactement. Donc ça, c'est des outils extraordinaires. Il y avait d'autres outils que tu voulais aborder.
Alors, il y avait,
Tu voulais
bah, moi,
parler de
pour mon travail de
Perplexity?
docu, ouais, parce que alors, je m'en sers, dans mon travail de documentaliste, bien sûr. Moi, je fais des recherches. Enfin, des fois, on me demande de faire des recherches ou de compléter des recherches, hein, que ce soit aussi bien pour les étudiants quand ils font leur travail de, leurs travaux de fin d'études ou d'autres choses. Bah, voilà, ils font enfin, une première ébauche de recherche, pardon. Et après, ils viennent me voir. Bah, on a cherché par-ci, par-là, on a fait comme si. On n'arrive plus à trouver des études sur ça, sur cette problématique. J'ai même mes collègues qui viennent me demander, ou des personnes de l'hôpital, hein, l'hôpital de Beaune auquel on est rattaché, bah, qui me demandent, j'ai déjà eu voilà, sur telle thématique. Alors, j'ai mes méthodes traditionnelles de recherche, je vais aller sur des bases de données, PubMed, EM Premium, des choses comme ça pour aller rechercher différentes choses, Cinal. Et bah, après, j'utilise, il y a deux outils à base d'IA que j'utilise voilà, qui me complètent vraiment. Comme je disais, comme pour les révisions traditionnelles, ma recherche traditionnelle, je la complète avec ces deux outils-là. Il y a déjà bah, Perplexity, comme tu citais, qui est lui ce qui se définit comme un moteur de réponse. En fait, c'est dedans, on va poser une question et lui, en fait, il va vous créer voilà, plus de réponses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous cibler, en fait, vous dire où c'est qu'il a été chercher les réponses sur le web. Donc, on peut aller regarder les éléments sur le web qu'il a été chercher pour répondre à notre question. Après, il faut regarder, il y a des fois, bon, il peut y avoir des choses qui n'existent pas. Hein. C'est comme un peu tout, comme ChatGPT ou d'autres, ils peuvent vous citer des études. J'avais lu des articles là, récemment là-dessus, où ouais, la bibliothèque, il y a une recrudescence à travers le monde de gens qui viennent avec des références de livres ou d'auteurs qui n'existent pas du
Oui,
tout.
exactement.
Voilà. Donc,
Et
voilà, il faut
c'est
toujours
là où
être.
on peut avoir avec Deep Search, si on peut avoir, il y a la partie où il va
C'est
voilà.
ça, exactement, c'est ce que j'allais venir. En fait, moi, ce que je me cherche, ce que j'utilise plutôt, pardon, c'est que j'utilise cette fonction-là pour la recherche académique, puisqu'on peut mettre, définir recherche académique, recherche. Donc, je mets la problématique, et en fait, lui, bah voilà, il va turbiner pendant un petit moment, et après, il me ressort tout un corpus où il me décrit tout par rapport à la problématique. Et en fait, après, bah, des fois, ça peut être, j'ai 50 sources, et j'ai pu. Compléter mes recherches traditionnelles avec des études que je n'ai pas trouvées avec mon. C'est peut-être moi qui cherche mal hein, aussi. Voilà. Mais je ne suis pas parfait. Donc, forcément. Et je me dis, c'est un très bon complément parce que j'ai trouvé des études récentes qui collaient parfaitement à la problématique. J'ai été voir qui étaient sur quand même des choses. Bah, quand j'ai cliqué académique, je m'attendais ni plus ni moins que ce soit quand même des choses, des sources sérieuses. Tu es quand même sur des choses sérieuses, établies. Voilà. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir des recherches très complètes. Ce qui était beaucoup plus difficile avant, parce qu'il faut quand même savoir que la plupart des études, documents scientifiques, quand même, beaucoup quand même sont payants. Et souvent, la problématique avec mes étudiants, comme avec moi, hein, moi, je n'ai pas envie de payer pour des études ou des choses comme ça. Après, je peux comprendre qu'il y a un travail derrière, mais c'est très compliqué des fois de pouvoir. Bah, il y a un article qui me plaît, mais voilà, je ne peux pas. Voilà, donc bah, il existe aussi peut-être d'autres études qu'on n'avait pas en. Qu'on n'avait pas conscience, mais qui existent à travers le monde, qui sont en libre service. Et c'est donc Perplexity que j'utilise, même s'il a il y a une polémique assez récente, puisque avec leur navigateur Comet,
Oui.
qui permet en fait maintenant de, surtout pour les plateformes d'apprentissage en ligne, ou par exemple Canvas, je crois, voilà, ou des choses comme ça. En fait, on peut l'étudiant à distance, depuis avec le navigateur, la Comet peut faire directement en fait les tâches. Donc s'il y a des travaux, il connecte directement ça à la plateforme. Et s'il y a des travaux, en fait, c'est Comet qui va faire. Enfin, c'est voilà, c'est Perplexity et Comet qui vont faire le travail à la place de l'étudiant. Donc c'est il y a une levée de bouclier là-dessus parce qu'en plus il y a comment, des vidéos qui sont faites par les développeurs de Perplexity qui vendent justement ça, que les étudiants n'auraient plus besoin de travailler. Là, Comet, enfin, va faire le travail à votre place. Donc, il y a une levée de bouclier des enseignants, notamment outre-Atlantique, où justement, ben, ils ne sont pas d'accord là-dessus. Puis je les comprends évidemment, parce que bon, personne n'apprend au final, quoi.
Exactement. Sauf que finalement, on lance la requête. C'est-à-dire que si par exemple moi je débute sur quelque chose, je vais demander de lancer la requête et après je suis responsable de la restitution. Et donc s'il
Oui.
peut y avoir d'autres pratiques, non? Parce qu'à un moment, de toute façon, si on va tous aller vers cela, c'est comme ChatGPT. Au début, Sciences Po disait pas de ça chez nous. Et aujourd'hui, ben, on dit tout le monde
Parce
y
que
accepte.
c'est très difficile de, quand les étudiants sont chez eux, c'est très difficile de leur dire non, on vous interdit. Et alors, après, voilà, c'est une composante. Tous les outils maintenant intègrent l'IA, Canva intègre l'IA, Genially intègre l'IA, tout le monde se met à la sauce IA. Donc forcément, il y a un moment, puis c'est pas. J'aimais bien cette image-là. C'est sorti du tube de dentifrice, pardon, on ne pourra pas y remettre dedans. Donc il y a un moment, il faut vivre avec, mais ça veut dire vivre avec, c'est-à-dire, c'est pas forcément non plus l'adopter. Je sais l'utiliser, mais c'est pas forcément, pas, je l'adopte. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut aussi sensibiliser, et c'est une chose très juste que tu dis aussi, bah c'est on peut faire l'autruche, hein, dire moi j'y ferai jamais, j'y toucherai pas, j'en ai pas besoin. Mais en face, quand on a des étudiants, des élèves ou des choses comme ça qui l'utilisent, bah, on a quand même, j'ai envie de dire, on a quand même un devoir, une responsabilité, nous, de notre côté, à aussi quand même leur enseigner, entre guillemets, les bonnes pratiques, à leur dire voilà, c'est pas comme ça qu'on fait, les accompagner là-dessus. Et aussi les interroger, quel est leur rapport par rapport à apprendre maintenant. Qu'est-ce que c'est pour vous? Parce que si en fait tout est facile, si bon, il n'y a plus besoin.
Ben, en
Voilà,
fait, par
je ne sais
exemple,
plus.
ça nécessite que les enseignants fassent un travail de réflexion, de recherche. Par exemple, c'est la montée en puissance de l'oralité. C'est-à-dire, au lieu de demander à ChatGPT qu'il m'écrive, je lui dis, OK, tu as ton ordinateur, tu poses ton ordinateur et tu m'expliques ce que tu as fait. Et donc, tu m'expliques ce que ton article, ton rapport. Et de plus en plus, aujourd'hui, il y en a qui lisent bêtement ChatGPT sans recul, alors qu'en fait, quand ils doivent l'incarner et répondre à des questions, bah, ils n'ont plus l'outil de ChatGPT qui leur a été la base de recherche, etc. Et donc, ils doivent incarner pour de vrai, donc s'approprier la connaissance qui est externalisée avec ChatGPT.
Exactement, c'est tu donnes le terme exact, ça externalise. Et c'est vrai que ça, il y a beaucoup, on revient sur, on interroge, hein, donc tu parlais de l'oralité, les examens oraux, hein, j'ai entendu parler. Nous, on revient aussi, alors on est revenu un peu comme tout le monde, des examens sur table, il n'y a plus de devoirs à la maison comme il y avait avant, parce qu'il n'y a plus aucune. Voilà. Donc on revient à travailler comme ça, puis à essayer aussi, voilà, par l'oralité, par à expliquer avec ses mots son travail, c'est-à-dire à l'incarner aussi. C'est-à-dire, est-ce que tu es en capacité d'incarner le travail que tu rends? C'est-à-dire, est-ce que comme ça on voit aussi, voilà. Alors, il y a quand même aussi, il y a des gens qui n'aiment pas hein, s'exprimer ou des choses qui ont plus de difficultés. Donc, ce n'est pas non plus une solution miracle, parce qu'il y en a certains, ça les oblige à vraiment aussi à se faire, enfin, à se forcer. Hein, il y en a qui ont plus de facilité à s'exprimer que d'autres. Il y a certaines personnes qui vont être comme le vendeur de voitures d'occasion qu'est ChatGPT. C'est très humain, ça aussi. Il y en a qui vont être charmeurs, qui peuvent aussi enrubanner ça d'un joli paquet, mais qui, en fait, il n'y a rien dedans aussi. Hein. Donc, voilà, ce n'est pas la solution miracle, mais c'est quelque chose d'intéressant parce que, voilà, on demande d'incarner ce que tes travaux, comment tu. Le processus, voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous demande aussi de revoir pas tellement la finalité, mais de voir le processus, d'évaluer le processus. Comment j'en suis arrivé là? Comment j'ai travaillé ça? C'est ça qui est intéressant avec l'IA, qui nous demande justement réimaginer. Voilà.
Exactement. Et
C'est
c'est pour ça
important.
qu'en fait, cette partie de socialisation, tu disais très justement, c'est un outil, mais à un moment, il faut que la société en fasse quelque chose et dire ce qu'est le bien usage, le bon usage. C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est le chemin qu'on fait. Alors aujourd'hui, on expérimente un peu.
Ouais, et ça vaut dans les deux sens, parce que là, on parle sous étudiants, par le prisme des étudiants, des élèves, mais les enseignants comme les formateurs l'utilisent aussi.
Absolument.
Et bon, je lisais un truc une fois sur le New York Times où c'était marqué, bah, les étudiants, en fait, ils comprennent pas. Mon prof me dit de ne pas utiliser de ChatGPT, puis lui, il l'utilise voilà, à tort l'arigot pour faire ses cours, pour aussi me rendre de la rétroaction, faire les notations. Voilà. Donc, il y a aussi quelque chose qui est important avec l'IA, c'est le principe de transparence. Il faut être
Absolument.
transparent, et je pense même dans la formation, tu parlais tout à l'heure au niveau de la formation, je pense qu'il y a le principe de transparence. Il faut dire aux apprenants, bah, j'utilise l'IA. Vous utilisez l'IA, et après, voilà, c'est dire comment j'utilise l'IA, comment je vais l'utiliser. Voilà. Il faut être transparent. C'est important d'être transparent.
Ce qui est important en Europe, puisque c'est obligatoire, avec l'IA Act et puis avec le RGPD, c'est d'avoir mettre en place cette transparence qui se construit petit à petit, mais les informer en leur disant il n'y a pas de honte, ils sont autant utiliser un outil qui est plus rapide. Et puis derrière, mais j'explique pourquoi et comment. Donc ça, c'est très bien. On arrive à la fin de l'émission. Donc c'était passionnant. Donc j'ai adoré. Il y a plein de choses. Quels sont les supports sur lesquels on peut te suivre?
Oh, bah on peut me suivre sur LinkedIn, hein,
D'accord.
celui où
Sur
je
LinkedIn.
partage. Ouais, sur LinkedIn. Après, je suis un peu sur d'autres réseaux. Alors, j'aime pas dire X. Je suis sur Twitter. J'aime bien rester sur l'appellation d'avant. Sur Twitter, sur Blue Sky aussi. Puis
D'accord.
sur Facebook pour ma page de veille. Pour retrouver aussi ma newsletter.
Ah, très bien. Donc,
Voilà.
on peut s'inscrire sur ta newsletter qui paraît tous
Ouais.
les combien?
Toutes les 2 semaines. Avant, il y a un an, j'avais un rythme une fois par, enfin, toutes les semaines. Et puis, je me suis dit que ça m'obligeait un peu de trop. Donc, toutes les 2 semaines, je trouve que c'est un rythme bien.
Oui,
Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, tu vois, pour la veille, je n'ai pas besoin d'IA pour me dire ce que j'ai besoin de faire. Je me réadapte tout seul. Je sais, voilà. Donc, voilà, on peut me suivre sur la newsletter.
et sur ta newsletter, c'est quoi les thématiques que tu as dessus?
Alors, thématique, j'appelle ça, c'est les actualités pédago
D'accord.
numériques, parce qu'en fait, je mets en avant la pédagogie, enfin, des
Très
actualités
bien.
pédagogiques, avant le numérique, et après, je rajoute quelques actualités numériques. Voilà. Grosso modo, en fait, comme j'explique ça, c'est un digeste, c'est un résumé de mes 2 semaines de veille. Tout ce que j'ai partagé, en fait, je vais regarder, je sélectionne et je fais une sélection. Tu as 7 informations pédago. Et trois informations numériques, et je rajoute des fois un petit bonus. Voilà, un
Ah,
petit
très bien.
truc, un petit peu comme ça, qui m'a quelque chose qui m'a interloqué, quelque chose qui m'a ému aussi. Ça m'arrive des fois dans des lectures, voilà, d'articles, des choses qui m'ont touché. Donc je le remets comme ça.
Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu proposes, c'est qu'en fait, à la fois, il y a toujours une sélection par définition,
Ouais.
tu fais des choix, donc ça évite aux gens de faire leur propre choix. Comme ça, ils rentrent par ton univers et ça aide à accompagner, etc., avant de se faire sa propre autonomie. Mais surtout, derrière, tu mets tes commentaires. Ce que tu aimes bien, etc. J'aime pas, je trouve ça chouette, etc. Et donc, pour des gens qui ne sont pas forcément dans l'outillage ou dans la pédagogie, bah, c'est une porte d'entrée où, si on aime bien ton univers, bah, finalement, on te suit. Et puis, ça, quitte à dire, je suis pas d'accord, d'ailleurs, et c'est formidable. Mais en tout
Mais
cas, ça permet d'avoir de l'humain.
oui, je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait, moi, il m'arrive de trouver dans ma. Ce que j'adore trouver quand je fais de la veille, c'est trouver des articles qui vont à contresens d'autres articles que j'ai trouvés. Et j'aime ça parce que ça contrebalance, moi, ma réflexion. Le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a souvent, on est dans du gris, dans une nuance. On perd souvent, hein, dans le monde dans lequel on est, la nuance. Et je trouve que c'est intéressant d'aller voir un petit peu les arguments des côtés de l'autre. Puis, comme on disait tout à l'heure, c'est des angles que je n'ai pas perçus par rapport à tel sujet, là, qui m'ouvrent d'autres perspectives. Et voilà, après, c'est in fine, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, mais je trouve que ça enrichit. Voilà. Moi,
Exactement,
c'est
Gérald de
ma.
Tirot.
Oui, c'est ça.
Gérald de Tirot, donc n'hésitez pas à le suivre, c'est passionnant. On essaiera de faire d'autres émissions ensemble,
Ouais.
à éviter d'attendre aussi longtemps pour en refaire une. En tout cas, c'est vraiment passionnant. N'hésitez pas à le dire s'il y a des choses que vous avez aimées ou vous aimeriez qu'on renouvelle l'expérience. C'est toujours avec plaisir. En tout cas, merci Gérald, c'était passionnant.
Merci. Merci à toi
Merci à tous.
Stéphane, hein, puis c'est toujours un plaisir.